Rafael Nadal à Rome, c'est déjà fini après un premier tour très poussif contre le Belge Zizou Bergs. L'Espagnol chute contre Hubert Hurkacz en 2-7, 6-1, 6-3. Ça a été extrêmement compliqué pour l'Espagnol. On a vu ses limites actuelles. Et la question qu'on a envie de vous poser, c'est le verra-t-on à Roland-Garros? Pour tenter d'y répondre, je suis en très bonne compagnie avec Rob et Josh. Salut les gars.
Salut, salut.
Salut, salut.
Donc là, on va revenir un petit peu sur le match de Rafa contre Hurkacz et surtout se projeter sur la suite. Du coup, les amis, j'ai envie de vous lancer tout de suite sur le match que vous avez commenté en direct, Hurkacz contre Nadal. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est le Polonais qui fait un match exceptionnel ou au contraire, est-ce que c'est l'Espagnol qui a donné le bâton pour se faire battre en justement sublimant un petit peu le jeu de son adversaire? Josh, qu'est-ce que tu en penses?
Bon, forcément, il y a des deux. C'est les deux. On va commencer par Hurkacz qui a fait une prestation exceptionnelle, qui joue un de ses meilleurs matchs sur terre battue en carrière, je pense. Je peux le dire, j'ose le dire. Voilà, on voit, hein, les statistiques, beaucoup de coups gagnants, peu de fautes directes. On a vraiment eu peu de fautes directes de la part du Polonais, ce qui a fait la différence. Il obligeait Nadal à jouer le coup de puce à chaque fois. Et on sait que voilà, Nadal, aujourd'hui, avec son niveau, bah, il peut plus tenir l'échange pendant 10-15 frappes. Et on l'a vu, donc. Service, ouais, quasi parfait, même si voilà, il a manqué de première balle à quelques moments, notamment en début de match, et ensuite voilà, parfait, coup droit revers, une agressivité folle, voilà, il a pris les risques et ça a vraiment payé. Et de l'autre côté, forcément, on a Rafa qui n'a pas été à la hauteur du défi du jour. Rafa, voilà, dont on a vu les faiblesses qu'on avait vues à Barcelone puis à Madrid. Sur des matchs contre Cachin et même contre Zizou Bergs, hein, lors de son premier tour 2 jours avant, hein, où il s'en sort en 3-7, 6-4 au troisième. On aurait pu s'attendre à un match un peu mieux mené, étant donné que voilà, Bergs, c'est pas non plus le cador du circuit. Et effectivement, on y reviendra plus en profondeur, mais je note quand même trois failles forcément dans le jeu de Rafa. Première faille, la longueur de balle, il n'y en a pas assez. Il se fait agresser trop facilement. Et donc, il donne le bâton pour se faire battre, comme tu l'as dit. Deuxième, c'est un manque de mordant dans ses coups. On l'a vu pas mal aller à la volée, essayer de monter un peu, de surprendre le Polonais, sauf que dans ses volées, il manque ce petit mordant, enfin, elles sont flottantes, ce qui fait que le Polonais avait le temps d'aller les chercher et de venir faire le passing, alors que le Polonais n'est pas forcément le plus fort en termes de déplacement. Voilà, il a quand même son 1,96 m à déplacer. Et troisième, c'est trop de fautes, forcément. Faudrait qu'il coupe en faute. Là, on l'a vu faire des fautes en retour, notamment sur des secondes balles de Hurkacz, des retours dans le filet. Donc, t'as pas le droit. T'as pas le droit à ce niveau-là. C'est pas possible. Donc, je pense que ces trois failles sont un peu ce qui ont fait qu'il a perdu aussi sèchement aujourd'hui.
Je te rejoins totalement. Et avant de te laisser la parole, Rob, quand même rappeler que Hurkacz, il n'avait pas gagné de match à Rome depuis 2020, où il
Ouais.
s'était donc mis en 3-7 contre Schwartzmann. Et certes, il a eu ce titre à Estoril, mais ce n'est pas un joueur de terre, hein. Hurkacz, même s'il a énormément progressé. Et là, il a vraiment mis en difficulté, plus qu'en difficulté même, l'Espagnol. Rob, qu'est-ce que tu en as pensé, d'autant plus que dans les premiers jeux, ben, ça partait plutôt bien cette rencontre.
Ouais, non, je rejoins globalement Josh. C'est vrai que ça partait vraiment bien. Deux premiers jeux qui durent 27 ou 28 minutes. Franchement, c'était intéressant. Les deux joueurs jouaient très bien. On avait des beaux échanges, des beaux points, pas mal de coups gagnants. Franchement, on était parti pour un gros combat. Et puis après, donc Rafa qui rate 5 balles de break sur le premier jeu de service du Hubert Hurkacz. Et après, la porte s'est refermée complètement. Il perd un break et après, plus rien. Vraiment une baisse de régime de Rafa après une demi-heure. Pour moi, ouais, c'est un mélange des deux. Hurkacz a joué, comme Josh l'a dit, sûrement son meilleur match sur terre battue. Il était dans la zone, il était vraiment offensif dès qu'il le pouvait. Il n'hésitait pas à monter, il prenait la balle tôt, il faisait très peu de fautes, il servait très bien. Enfin, vraiment un match exceptionnel de sa part. Mais Rafa, ouais, toujours un peu les mêmes problèmes. Clairement, un manque de longueur de balle, surtout en coup droit. Moi, c'est surtout le coup droit qui m'inquiète. Le revers aussi, par moment, il y a un manque de longueur, c'est clair. Mais franchement, le coup droit, ça manque de punch, quoi. Il n'y a pas de punch. Des fois, ça atterrit à peine sur une de carré de service. Et forcément, bah, quand tu joues un joueur, alors ça reste des bons joueurs, hein, j'ai rien contre eux, mais quand tu joues Bergs, Kachin, des joueurs qui ne sont pas forcément capables de te mettre une grosse pression si tu joues court, ça peut passer au combat, tu peux t'en sortir en 2-3 sets, en 2-3 heures de jeu. Mais là, contre un joueur qui t'agresse dès qu'il le peut, qui joue très bien des deux côtés, qui n'a pas vraiment de faille parce qu'il a un bon coup droit, mais en revers, c'est très très solide aussi, bah voilà, quoi, forcément, le Polonais s'est régalé, il a agressé dès qu'il l'a pu. Et en plus, quand on sait aussi que Rafa, je trouve, a encore des petites lacunes en défense, qui n'est pas aussi explosif qu'avant sur ce point-là, bah, le tout combiné, c'est trop compliqué. Et comme l'a dit Josh, il y a aussi trop de fautes. Par moments, il y a trop de fautes, des fautes un peu stupides en retour, des fois des coups qui sortent pas, que ce soit en coup droit, en revers, des coups qui sortent pas de la raquette qui restent dans le filet. Des bois aussi, alors je ne sais pas vous si vous avez souvenir de beaucoup de coups boisés de la part de Rafa. Je trouve qu'il en fait quand même plus en ce moment. J'en vois au moins deux ou trois par match. Donc ouais, je pense qu'il y a clairement un manque de rythme. Ça se voit dans ses déplacements, ça se voit parfois pour conclure certains points. Ça se voit dans un match parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et ouais, c'est dur d'être optimiste pour moi, pour Rafa, à l'issue de ce tournoi.
C'est tout à fait ça, et surtout au-delà de ça, au-delà du manque de rythme, ben, c'est Rafa qui fait son âge, hein, tout simplement. Le fait qu'il se déplace de moins en moins rapidement, c'est tout à fait normal. Il y a une période descendante. Déjà, ça avait été le cas il y a quelques années, en 2022, où il était beaucoup moins rapide qu'avant. Et là, on peut noter peut-être un demi-pas qui lui manque à chaque fois, ce qui fait que derrière, ben, côté coup droit, il est mal placé. Donc soit il fait un bois, soit ben, sa balle ne fait pas
Ça.
mal ou va à la faute. Et tout s'explique et tout part de là pour moi. Et on le sent lourd, pâteux un peu sur ses déplacements, même s'il allait, il faisait l'effort d'aller sur les amortis de Jurkač. Mais à chaque fois, c'était quand même extrêmement compliqué. Côté revers, tu l'as dit, il y a de bonnes choses quand il arrive à prendre tôt, à accélérer. Mais derrière, je ne sais pas pourquoi il fait quasiment plus de slice. On en discutait, il en
Ouais,
a
c'est
dû en
vrai, c'est
faire deux ou
bizarre.
trois dans la partie. Alors qu'un joueur comme Jurkač, qui frappe très tendu, très à plat, des petites variations de rythme, des petites variations de hauteur pour perturber un petit peu justement le Polonais, ça aurait pu fonctionner. On se rappelle notamment de son match à Roland 2022 contre Novak Djokovic, où longue ligne, il remettait le slice sur le revers de son adversaire. Là, il essaie d'aller longue ligne avec son revers. Souvent, ça va à la faute parce qu'il est extrêmement mal placé. Après, des fois, il monte en tong au filet, où avant, on sait qu'il était si clinique sur ce compartiment de jeu-là, avec des volées courtes, tranchantes, bah là, il n'y arrive plus, Rafa. Et d'une façon générale, il n'arrive pas à faire la différence, il n'arrive pas à faire mal à ses adversaires avec un physique déclinant. Il est en retard. Côté coup droit, bah, c'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas à quel point aussi il a dû ajuster sa prise. Côté coup droit, on l'a vu que c'était un petit peu différent par rapport à 2022, étant donné qu'il a été opéré au niveau de cette partie-là, donc par rapport à cette rotation qu'il a sur son côté coup droit. Je ne sais pas à quel point ça affecte son lift. À chaque fois, il a joué à 13h, donc dans des horaires idéales, pour que la balle gicle. Mais là, le Polonais, il n'était pas du tout dérangé. Il tenait sa ligne, il distribuait, il faisait le jeu, il agressait Rafa, il le privait de temps. Et Nadal, ben, il subissait en permanence. Et je pense que c'est important de parler de son service aussi, où il n'a aucun point gratuit. Il frappe plus fort qu'à Barcelone, et encore heureusement, parce que c'était très très faible. Mais là, c'est impossible pour lui d'avoir des points gratuits. Et à chaque fois, c'est une mise en jeu. Et derrière, il doit batailler 10-15 coups pour faire la différence. Et à ce petit jeu-là, ben c'est Jurkač qui a mis le plus de points dans les longs rallyes. Donc ça veut tout dire du niveau actuel de l'Espagnol. Je ne sais pas si vous me rejoignez un petit peu sur cette analyse.
Complètement. C'est vrai que les points gratuits se font plus rares. On le voit là dans les statistiques. Un ace. Bon, Rafa, ça n'a jamais été le joueur qui te fait 15-20 aces par match, forcément. Mais là, on voit que seulement 8 de ses services n'ont pas été retournés. Donc, tout le reste, il a dû jouer au moins. Il a dû s'embarquer dans des rallyes ou dans des échanges contre Hurkacz. Donc, forcément, tu as moins la mainmise sur tes jeux de service. Donc, tu as plus de pression. Donc, l'adversaire est plus à même de te rentrer dedans. Et forcément, là, on l'a vu, le score est sec, mais au final, quand on compare le niveau de jeu des deux joueurs, c'est quasiment mérité en fait. 6-1, 6-3, Hurkacz a été bien au-dessus d'un Rafael Nadal qui, comme tu l'as dit, effectivement, n'a pas réussi à trouver même la clé tactique, parce qu'effectivement, ce côté slice lui aurait permis, je pense, de faire craquer Hubert Hurkacz plus d'une fois. Et c'est vrai qu'il lui donnait tout le temps la même balle. Donc tu lui donnes tout le temps la même balle, donc ok, sur les deux premiers jeux. Il y avait de l'intensité, Hurkacz n'était pas réglé, donc tu lui as fait mal sur certains coups. Sauf que par la suite, Hubert, il sait ce que c'est que ta balle, et il s'appuie dessus, il l'a merveilleusement bien fait, et voilà, l'addition est très sec.
Je pense que Rob, t'es aussi de cet avis.
Ouais, je suis clairement d'accord. Ouais. C'est vrai que ça a manqué de variation. On sent pas. Ouais, on sent, en fait, je trouve que Rafa, vraiment, on sent quand même qu'il est déclinant dans l'échange. Que voilà, sa qualité de déplacement, sa qualité de frappe n'est plus la même. Et c'est vrai que bah, si tu veux un peu pallier ça, atténuer cela, je pense qu'il faut être plus offensif. Le problème, c'est que tu peux pas être plus offensif avec une qualité de service comme ça, quoi. Si t'as pas une très bonne qualité de service, bah, t'es toujours dans l'échange. Donc en fait, tu n'as pas trop d'occasion d'être offensif. Donc tu peux pas écourter les échanges. Donc tu te fatigues. Après, c'est un cercle vicieux. T'arrives pas à tenir l'intensité, donc bah tu perds des points, des jeux, et C'est vrai que c'est un peu un cercle qui est dur à résoudre pour Rafa parce qu'il a vraiment besoin d'avoir plus de points gratuits sur son service pour ensuite pouvoir, quand il y a des échanges, bah, pouvoir mettre plus d'intensité. Et là, il n'en est pas capable parce que bah, maintenir l'intensité, à devoir faire des échanges de 10, 15, 20 frappes tout le temps, bah ouais, c'est en effet trop compliqué et c'est un peu ce qu'on observe.
Et c'est le Rafa actuel, c'est les limites actuelles de son niveau, et c'est ce Rafa, ben, version 2024, sur une fin de carrière, avec ses limites. Et à chaque fois, ben, c'est vrai qu'on a l'impression que ses adversaires brillent contre lui, que ça a été Kachin, Lechka, Jurkacz, même Zizou Berks. Mais la réponse est aussi dans la raquette de l'Espagnol, qui donne justement le bâton pour se faire battre avec ses balles extrêmement courtes. Et là, quand des joueurs ont un plan de jeu clair, voilà, tiennent leur ligne, agressent Rafa, lui privent un maximum de temps. En plus, quand ils arrivent à bien servir, ben c'est extrêmement compliqué pour l'Espagnol parce que sa qualité de relance, ben, n'est pas au rendez-vous, n'est pas à la hauteur, en tout cas du haut niveau. Là, on parle d'un membre du top 10 et c'est beaucoup trop compliqué pour l'Espagnol. On aura l'occasion un petit peu de se projeter sur la suite pour lui. Avant tout, un mot du partenaire de cette vidéo, TheBet. Donc, c'est un site de paris sportifs, activité responsable pour les majeurs. N'investissez pas de l'argent que vous n'avez pas et ils vont nous accompagner jusqu'à Roland-Garros. Et avec le code GST, lors de l'inscription, bah, tu vas avoir accès à un bonus de bienvenue, ce qui fait que ton premier pari, il va être remboursé à hauteur de 100 euros en free bet, qu'il soit gagnant ou perdant. Et je te mettrai également tous les liens en description ou quand tu cliques directement sur le lien, bah, tu as juste à t'inscrire et tu n'as pas besoin de taper le code promo. Donc un grand merci à TheBet et comme d'habitude, activité responsable. Donc soyez sage vis-à-vis de tout ça et on va pouvoir se projeter un petit peu sur la suite concernant Rafa. Là où c'est plus étonnant, et j'aimerais avoir votre avis sur ça, c'est qu'on a eu des déclarations positives de la part de l'Espagnol et c'est bien la première fois en 2 ans que, on sent l'Espagnol qui se livre de façon aussi optimiste par rapport au fait qu'il avait retrouvé des bonnes sensations, qu'il sentait mieux dans son tennis, dans sa tête. On l'a revu faire des blocs d'entraînement assez longs, assez denses, 3 heures. Lorsqu'il arrive à Rome, après il a rejoué contre Cerundolo, il a également joué contre Tsitsipas. Donc c'était assez solide et ça pouvait laisser présager du bon où il montait petit à petit le curseur jusqu'à l'arrivée de Roland-Garros. Mais là, c'est une grosse claque pour lui, cette déconvenue contre Jurkacz. Josh, toi, comment est-ce que tu vois la suite pour l'Espagnol? Est-ce qu'il va aller à Roland-Garros ou est-ce qu'au contraire, il va se préserver et plutôt miser sur les Jeux Olympiques?
Non, effectivement, évidemment qu'il ira à Roland-Garros. S'il peut, s'il a la condition physique suffisante, il ira à Roland-Garros. Il sera à Roland-Garros. Enfin, il ne peut pas louper Roland-Garros 2 ans d'affilée, surtout les 2 dernières années, là. Ce serait non, c'est impossible. L'année dernière, c'était juste impossible parce que voilà, physiquement, il explosait, il pouvait pas s'entraîner convenablement, donc ça servait à rien d'aller tenter de faire un match pour se fracasser encore plus. Là, on voit qu'il peut faire des matchs. On voit qu'il les enchaîne les matchs. À Madrid, il a enchaîné 4 matchs, dont un de 3 heures, et il perd contre les HK, pas parce que il est mort sur le court. Enfin, contre les HK, il bougeait, hein. Il perd parce qu'il n'a pas le niveau de jeu suffisant, que l'autre est plus fort que lui. Donc là, il n'y a pas de contrainte physique, donc il sera Roland-Garros. Dans quel état? On espère le mieux possible, parce que c'est une condition maintenant quasi sine qua non pour voir un bon Rafa. Enfin, un bon Rafa sans physique ne peut rien faire. Mais il sera Roland-Garros. Maintenant, au niveau de ses chances, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que là, on sort d'un match à rallonge contre Zizou Berg, et d'une
ouais,
défaite
108e.
super sèche contre un top 10. Et on sait que Rafa Roland-Garros, il peut tomber contre n'importe qui. Donc, ça va être, voilà, va y avoir la petite part d'aléatoire au niveau du tirage au sort. Je pense qu'on vous débriefera ça de fond en comble quand le tableau tombera. Et là, on pourra vraiment se projeter sur ce que pourra faire Rafa éventuellement ou pas. Mais ça va être compliqué. Il y a ces déclarations, effectivement, qui sont positives, où il dit, voilà, ça va de mieux en mieux, tant physiquement que tennistiquement. Physiquement, je veux bien le croire parce que on le voit pas gêner. Voilà, on ne se dit pas, tiens, la hanche, c'est compliqué, tiens, le poignet, machin. Mais tennistiquement, on sent quoi là, donc comme on l'a dit, il n'y a pas de longueur de balle. Et l'autre déclaration, je suis arrivé au moment où je dois tout essayer. Effectivement, on ne l'a pas senti, on va dire, à 100% dans cette démarche sur ce match contre Hurkacz, mais c'est parce que en face, il y avait un joueur qui ne l'a pas laissé respirer. Et donc la suite, forcément, quand on analyse toute cette saison sur terre battue, un match qui doit perdre, selon moi, contre Pedro Cachin, un match très compliqué contre Zizou Bergs, une défaite méga sèche contre Hurkacz. Bah, ça laisse pas de belles choses à prévoir hein, si on est objectif. Maintenant, Rafa Roland-Garros n'a pas d'égal. On sait que quand il arrive sur le châtrier, il n'y a que lui qui peut faire ce qu'il fait. On sait voilà toute la magie qui opère sur ce court, mais ça, on sait que ça suffira pas quoi. Et qu'aujourd'hui, il fait peur à deux. Il fait plus trop peur, enfin sur terre battue quand on regarde ces matchs. Donc la suite s'annonce très compliquée et je pense qu'on pourra donner un vrai avis et une vraie projection quand le tableau tombera.
C'est parce qu'il peut tomber sur un Djokovic, un Alcaraz d'entrée. Et là, il a eu des tirages, on va dire, plutôt cléments. Même Hurkacz au deuxième tour, bon, c'est un top 10, mais ça reste quand même clément, je trouve, par rapport à qui il aurait pu affronter avec des spécialistes ou des joueurs très en forme. Toi, Rob, qui te voyais en finale, si je dis pas de bêtises, est-ce que ça a été un petit peu la douche froide, ce match contre Hurkacz?
Bah ouais, j'étais assez optimiste pour Rafa après Madrid. Alors bien sûr, il y a eu le match compliqué contre Kachin, mais je trouvais quand même qu'il y avait vraiment du mieux, notamment contre Demi-Nord. Les déclats aussi, je me disais que ouais, il était sur une bonne pente, une pente ascendante. Je pense qu'en fait, il y a un décalage entre ce que lui ressent à l'entraînement et ce qu'il arrive à produire en match. Et on l'a vu aujourd'hui, à un moment donné, il s'agace hein, contre Urkacz, il se tape la raquette sur la cuisse parce que ouais, je pense qu'il y a un décalage en fait. Je pense qu'il se dit ouais, à l'entraînement, ça va. Mais je pense qu'il est plus capable de maintenir une intensité constante sur un match, en fait. Quand un adversaire qui joue un match sérieux, avec de l'intensité, bah, c'est pas la même chose qu'à l'entraînement. Et je pense que c'est ça qu'il n'arrive plus à tenir, quoi. Donc toute la question réside dans est-ce qu'il va réussir à retrouver l'intensité, à avoir plus de régularité ou pas. Et ça, c'est sûr que si on regarde ses matchs et ses tournois, c'est compliqué d'être optimiste. Surtout là, après Rome, honnêtement, les deux matchs sont pas bons. Franchement, si Berg est un peu plus clutch, s'il n'a pas un petit passage à vide dans le début du deuxième set, franchement, il pouvait peut-être éliminer Rafa d'entrée. Et ouais, là, aujourd'hui, il n'y a pas eu match, donc forcément, c'est compliqué. Après, on peut se raccrocher, ouais, au côté Le Châtrier, la légende de Rafa, Laura. Et voilà, quand en fait, on se raccroche à des trucs un peu improbables, quand on se dit Laura de Rafa, Roland, la pression pour les adversaires, un petit tirage peut-être trafiqué, on ne sait pas, un petit coup de chance. En fait, on se raccroche à ça parce que pour voir Rafa faire un bon parcours à Roland, il faudra ça. Il faudra peut-être un adversaire qui craquera sous la pression parce que c'est Rafa à Roland, tu peux le battre peut-être pour la première fois sur un premier ou un deuxième tour, 112 victoires, 3 défaites, peut-être que le gars va craquer un petit peu à ce moment-là. On se dit, voilà, il faudra peut-être un petit coup de ça, un petit coup de, voilà, j'ai un peu de chance parce que je tombe sur l'adversaire pas trop en forme ou pas trop spécialiste de la surface. Et après, voilà, peut-être qu'il va gagner 2-3 matchs parce qu'il a un bon tirage, parce que les adversaires ont un peu de pression, peut-être parce qu'il joue un peu mieux aussi, il ne faut pas non plus écarter cette possibilité. Et après, peut-être qu'il prendra de la confiance et qu'il aura un très bon niveau de jeu, mais ouais, je pense qu'il y a surtout besoin de confiance. Et là, quand tu perds dès le deuxième tour, c'est compliqué. Donc en l'état actuel, bien sûr, il faudra attendre le tirage. Mais c'est vrai qu'en l'état actuel, on en revient un peu à notre discussion qu'on a eue il y a quelques semaines. Je pense que ouais, voir Rafa en huitième de finale à Roland-Garros, c'est un objectif qui est raisonnable et qui serait déjà très bien parce que bah là, clairement, ce tournoi donne pas envie d'être très très optimiste.
Même une deuxième semaine, ça paraît tellement loin au final quand on voit
Ouais.
ce Rafa, à quel point il évolue et ses limites actuelles hein, qui sont logiques pour son âge par rapport à toute sa carrière. Il n'y a rien de déconnant dans tout ça. Et pourtant, on était presque à deux doigts avant ce match contre Hurkacz de dire qu'il était dans la bonne démarche,
Ouais.
on l'a souvent critiqué par rapport à son calendrier, mais là je trouvais que ça faisait sens, un petit peu sa montée en puissance. Ok, je reprends mes marques à Barcelone, je pousse pas dans mes limites contre Demi-Nord. Voilà, j'arrive à challenger durant un set, et derrière, je vais pas trop forcer, j'ai pas envie de me péter. Ensuite, Madrid, où là il a vraiment pu aller au combat contre Kachin, derrière enchaîner, montrer qu'il était capable d'enchaîner, même s'il perd contre l'HK, mais il semblait pas gêné physiquement. Et là, retrouver un peu, on va dire, de la confiance avec ce premier tour compliqué contre Zizou Berg, qui joue bien. Je me rappelle, enfin, dans le deuxième ou troisième set où il doit sauver 3 balles de débreak, qu'il arrive à les sauver,
Troisième
ça,
set.
ça, ça
Non.
faisait sens. Mais là, c'est vraiment la claque pour lui, et ça le rappelle que il est très très loin de ses niveaux top 10, qu'à l'heure actuelle, son tennis ne fait plus mal. Et bien sûr, il faudra surveiller en 2 semaines ce qu'il est capable de produire. Et après, il y a tellement de variables. Là, on parle quand même d'un gars qui a gagné 14 Roland-Garros, et on en est à parler de variables. Voilà, il faut qu'il ait le bon tirage, qu'il se sente un peu mieux,
Ça,
qu'il y
ouais,
ait ci, qu'il y ait ça, qu'il y ait
c'est
ça.
qu'on se dit que c'est la fin, ouais.
Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions par rapport à ça. Quand on commence à raisonner ainsi, à mon avis, c'est compliqué d'être optimiste pour l'Espagnol à Roland-Garros, l'échéance est beaucoup trop courte. Je ne sais même pas s'il voudra s'aligner. Il faudra surveiller de près ses prochaines déclarations.
Je pense quand même, mais...
Oui.
Enfin, mais parce qu'il a quand même cette double cartouche, on en parlait, par rapport au fait qu'il y ait les JO derrière. Ne pas venir à Roland-Garros, finalement, il sait qu'il pourra toujours faire ses adieux aux Jeux Olympiques.
Il a un peu dans sa tête, mois quand même.
Il se dit que même si je ne viens pas là à Roland-Garros pour Roland-Garros, j'irai à Roland-Garros pour les Jeux Olympiques. Et donc, c'est à peu près OK, entre guillemets. Donc, il pourrait aussi avoir cette démarche-là et de faire ses adieux au Châtrier aux Jeux Olympiques dans quelques semaines, enfin dans beaucoup de temps d'ailleurs. C'est pas tout de suite. Donc, à voir qu'est-ce qui va favoriser. Bien évidemment, nous, on surveillera ça de très près avec déjà le tirage au sort. Et pour patienter, Josh a fait une excellente vidéo sur le tennis italien. Il revient un petit peu sur tous ces joueurs-là qui performent, même si ça a été compliqué avec l'abandon, enfin le forfait de Sinner et de Berrettini dans cette édition, et également l'abandon de Musetti. Mais il y a pas mal de pépites à découvrir, et celle également sur Daniil Medvedev qui est très intéressante par rapport à ce joueur controversé qui est un peu la quatrième roue du carrosse. Nous, on se retrouve très très rapidement pour parler de Rome. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.